Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette édition de notre programme et bon début de carême à tous et à toutes. L'Église est entrée en carême mercredi 5 mars, 40 jours de marche dont la prière, le partage et la pénitence vers Pâques, la résurrection du Christ. Au Vatican, en absence du pape hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie bilatérale à la polyclinique de Gemelli à Rome, c'est le cardinal Angelo de Donatis, pénitencier majeur, qui a présidé la messe d'ouverture du carême en l'église Saint-Anselme sur la colline de l'Aventin. Dans son homélie lue par le cardinal de Donatis, le pape a appelé à marcher vers l'espérance de Pâques. Le temps du carême en cette année jubilaire est une invitation à emprunter ce chemin de conversion en tant que pèlerin de l'espérance. Et ces paroles sont du père Hippolyte Anigori, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez en fin d'édition. Il reviendra notamment sur la particularité du temps du carême en cette année jubilaire. Et cette année encore, le temps de carême coïncide avec le mois musulman du Ramadan, occasion pour l'imam ivoirien Ibrahim Koné, membre du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, d'appeler chrétiens et musulmans ivoiriens à mettre à profit cette période pour prier pour le bon déroulement de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans cette édition, nous nous rendrons également en République démocratique du Congo, où Mgr Melchisedek Sikouli, évêque de Butembo-Beni, a présidé dimanche 2 mars la messe du 50e anniversaire de décès du tout premier évêque du diocèse, Mgr Henri Pierrard. Après l'actualité sociopolitique africaine, vous entendrez Mgr Donatien Cholet, secrétaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il reviendra sur le pacte pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
L'Église a entamé mercredi 5 mars, mercredi décembre, sa marche vers Pâques, cœur de la foi chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. On y revient dans quelques instants. Le pape est toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome pour une pneumonie bilatérale. Le bulletin de santé du Saint-Père a publié mercredi matin par la salle de presse du Saint-Siège indiquait que le pape s'est bien reposé pendant la nuit, se réveillant peu après 8 heures. Le pronostic reste réservé, a également précisé le communiqué de la salle de presse du Saint-Siège. Comme depuis 2 semaines, le Vatican a publié le texte préparé par le pape François en vue de l'audience générale qui aurait dû se tenir mercredi, mais annulé en raison de l'hospitalisation du souverain pontife. Dans cette catéchèse, le pape poursuit son cycle sur l'enfance de Jésus. Il revient en particulier sur la pète de Jésus, alors âgé de 12 ans, lors du pèlerinage à Jérusalem, relaté dans l'Évangile selon saint Luc. Après l'avoir perdu de vue, Joseph et Marie le retrouvent au temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Inquiète et anxieuse, Marie lui demande pourquoi il a agi de la sorte. Ce à quoi Jésus, alors âgé de 12 ans, répond avec simplicité « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Selon François, cette expérience au temple souligne la primauté incontestée du Père Céleste dans la paternité du Fils. Le pape François invite les fidèles à s'arrêter sur ce dialogue entre Marie et Jésus, un dialogue qui aide à réfléchir sur le parcours spirituel parcouru par la Vierge, dont la compréhension du mystère de son fils, son premier disciple. Alors que le pape François est toujours hospitalisé, nous le disions, à l'hôpital Gemelli de Rome, la traditionnelle procession de la basilique de Saint-Anselme vers la basilique Sainte-Sabine à Rome a été présidée par le cardinal de Donatis. Cet ancien vicaire de Rome a lu l'homélie écrite par le pape François au cours de la messe de mercredi décembre, ouvrant les 40 jours de carême. Insistant sur l'expérience de la fragilité, le Saint-Père a appelé à marcher vers l'espérance de Pâques. Jean-Benoît Harel.
Nous sommes poussière, nous avons été créés à partir de la poussière et nous retournerons à la poussière. C'est ainsi qu'a commencé l'homélie du pape François pour cette messe du mercredi des cendres. Les cendres rappellent la fragilité de chaque être humain, souligne le Saint-Père, notamment par l'expérience de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance. Mais plus insidieuse est la poussière fine, assure-t-il, celle qui pollue le monde, comme les oppositions idéologiques, l'exclusion des autres, l'exploitation de la terre ou encore la violence. Le pape ajoute qu'il ne faut pas exorciser le drame de la mort, comme le font parfois nos sociétés, en marginalisant ou en faisant disparaître cette réalité. Les cendres nous rappellent qui nous sommes, cela nous fait du bien, assure-t-il. Mais ces cendres appellent à l'espérance, l'espérance apportée par le Christ qui a pris la condition humaine et l'a élevée jusqu'au ciel. Si l'homme est poussière, il est une poussière précieuse aux yeux de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme en le destinant à l'immortalité, écrivait Benoît XVI. Par l'aumône, la prière et le jeûne, le pape François invite à comprendre que seul l'amour de Dieu et des autres peut nous rassasier et que le Seigneur balayera toujours les cendres de la mort pour nous faire resplendir d'une vie nouvelle.
Jean-Benoît Harel, et cette année encore, le temps du carême coïncide avec le mois musulman du Ramadan qui a débuté le 1er mars dernier. Tout en souhaitant un fructueux temps de carême aux chrétiens du monde entier, l'imam Ibrahim Koné, membre du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, exhorte chrétiens et musulmans ivoiriens à mettre à profit ce cheminement spirituel afin de prier pour le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.
Mes souhaits est que cette période de privation soit une école de formation pour eux aussi. Le jeûne musulman ou le carême chrétien, ce sont des périodes où nous nous remettons à Dieu. Et nous sommes, cette année en tout cas en Côte d'Ivoire, nous sommes en une période électorale. Donc je souhaite que l'ensemble de ces deux communautés, tout ce que nous allons faire comme prière, que ces prières-là nous mettons en grande partie sur ces élections-là, afin que cette élection qui arrive au mois d'octobre, élection présidentielle, puisse se passer dans la grâce et la miséricorde de Dieu, et que tout se passe très bien. La paix, pour qu'il y ait la paix dans un pays, il faut qu'il y ait l'union des cœurs, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Dans cette période de grande pénitence, que le carême, les 40 jours du mois chrétien et les 29 ou 30 jours musulmans vont nous permettre de continuer de prier pour l'amour entre nous, pour l'entente, la cohésion entre nous et le partage, afin que cette élection qui arrive se passe dans de très bonnes conditions.
Voilà l'imam Ibrahim Koné, membre du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Direction République démocratique du Congo, dimanche 2 mars, l'évêque de Boutembo-Béni a lancé un appel à la prière pour la santé du Saint-Père. Monseigneur Melchisedec Sikouli présidait la messe sur l'esplanade de la toute première cathédrale du diocèse à Beni-Païda à l'occasion du 50e anniversaire du décès du tout premier évêque du diocèse, Monseigneur Henri Pierrat. Jean-Baptiste Malingué.
Nous avons prié pour le pape. Maintenant qu'il est malade, continuons à le confier à Dieu. L'évêque de Boutembo-Béni a aussi demandé de prier pour la paix en Afrique, en République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Kivu et de l'Ituri. Nous, chrétiens, croyons au Christ qui a vaincu la mort, a dit Monseigneur Melchisedec Sikouli. L'évêque de Boutembo-Béni a rappelé que le tout premier évêque du diocèse avait échappé à des massacres en 1964. Monseigneur Sikouli portait le dimanche 2 mars la crosse du tout premier évêque du diocèse, justement, Monseigneur Henri Pierrard, mort le 5 mars 1975. C'est pour marquer ce cinquantenaire que l'évêque a célébré la messe à Beni-Païda, premier siège du diocèse avant son transfèrement à Boutembo en 1965 pour des raisons pastorales. Le missionnaire assomptionniste Henri Pierrard a été ordonné évêque en 1938 à Moulo pour le vicariat de Béni devenu diocèse en 1959. Henri Pierrard a fondé les deux congrégations religieuses diocésaines des Petites Sœurs de la Présentation et des Frères de l'Assomption. Il a accompagné les deux premiers séminaristes dont l'un, Augustin Fataki, deviendra en 1968 le tout premier archevêque noir de l'archidiocèse de Kisangani. Monseigneur Melchisedec Sikouli a ordonné six nouveaux prêtres diocésains. L'évêque émérite de Wamba, Monseigneur Janvier Kataka, leur a aussi imposé les mains. Jean-Baptiste Malingué Kalunzu pour Radio Vatican.
Et nous restons en République démocratique du Congo pour ouvrir l'actualité sociopolitique africaine. Le groupe armé M23 cible les défenseurs des droits humains dans l'est du pays, a accusé mercredi une experte indépendante de l'ONU en évoquant notamment des détentions arbitraires, disparitions et tortures. La région du Sahel reste l'épicentre du terrorisme pour la deuxième année consécutive, avec plus de la moitié des décès dans le monde en 2024, selon le dernier indice mondial du terrorisme publié mercredi. Sur 7555 décès dus au terrorisme dans le monde en 2024, 3855 ont été enregistrés au Sahel, soit 51% d'après l'indice mondial du terrorisme. Cet indice classe chaque année 163 pays en fonction de l'impact du terrorisme et a comme indicateur le nombre d'attaques, de morts, de blessés et d'otages. Depuis quelques semaines, l'enceinte rouge sur l'aboutissement de la démarche entreprise par les églises catholiques et protestantes en République démocratique du Congo, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Sur ce point, Mgr Donatien Cholet, secrétaire de la CENCO, la Conférence nationale des évêques du Congo, nous explique que ce processus ne vise pas un accord politique.
Les deux églises voient l'intérêt supérieur de la nation. Et à propos de cette question précise, je crois qu'il y a des confusions. Ce que nous demandons, ce n'est pas un dialogue direct entre M23 et le président Tshisekedi. Dialogue que nous conseillerions aussi. Nous demandons que l'M23 soit à côté des autres Congolais autour d'une table pour réfléchir Congo. Mais si cette approche directe se réglait au niveau du processus sous-régional, ça n'exclut pas qu'au niveau interne, nous soyons avec l'M23.
Malgré le fait que vous ayez été à leur rencontre, les hostilités continuent. L'M23 continue à progresser. Bref, comment expliquer cette situation?
C'est tout ce que nous prêchons. La solution à cela ne doit pas être seulement de trouver du côté de M23. C'est de part et d'autre qui doivent se donner des assurances de cesser le feu, de créer les conditions de cesser le feu. C'est-à-dire aucune partie en guerre n'acceptera un cesser le feu qui se revit comme une opportunité pour donner à l'autre l'occasion de se réorganiser pour le contrecarrer. Donc il y a un travail à faire encore à ce niveau-là pour que les uns et les autres comprennent la nécessité, l'extrême nécessité même de d'arrêter avec les armes pour rendre plus pertinent le forum que nous sollicitons.
Votre action se propose d'aller au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, comme le suggère le titre « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble » en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Il ne s'agit pas simplement de faire la morale, mais aboutir à des solutions politiques, ce qui demandera peut-être des concessions. Que prévoyez-vous faire pour aligner tous les 3 ou 4 États de cette région derrière vos résolutions?
Au niveau sous-régional, c'est déjà une autre dimension, c'est le deuxième niveau de notre approche. Et comme premier niveau, nous n'imposons pas un pacte, un accord, non. Il s'agit de mettre les acteurs sociopolitiques qui sont responsables pour que, avec l'aide du travail que les experts auront déjà fait en amont, qu'ils puissent avoir la facilité de trouver un consensus qui serait le pacte que nous attendons.
Un mot de la fin, Monseigneur.
Ben, je terminerai par demander à tous les compatriotes qui nous suivent de porter cette initiative des églises dans la prière. Tous ceux qui peuvent y contribuer par leur expertise, par la facilitation des moyens logistiques, auront fait vraiment beaucoup de bien à la République démocratique du Congo et le Seigneur leur en sera reconnaissant.
Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire de la CENCO, la Conférence nationale des évêques du Congo, il répondait aux questions de Fabrice Bangen-Dekere. Revenons au carême qui a débuté mercredi 5 mars, un temps de repentance, de prière et de partage qui prépare les fidèles chrétiens à la Pâque du Seigneur. Pour le père Hippolyte Anigori, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le temps de carême en cette année jubilaire est un appel à emprunter le chemin de la conversion en tant que pèlerin de l'espérance en ayant le Christ comme boussole. Il commence par souligner la particularité de ce temps de carême en cette année jubilaire.
La particularité du temps de carême de cette année jubilaire s'inscrit dans une dynamique qui rehausse le thème de la conversion. Oui, le thème de l'année jubilaire, nous le connaissons, ce thème, c'est bien pèlerin de l'espérance. Alors, l'espérance, ce temps de carême de l'année jubilaire, doit le porter à sa pleine réalisation en faisant aspirer tous les hommes à la figure du ressuscité, porte du salut et notre espérance, comme le signifie le pape François dans la bulle d'induction du jubilé ordinaire de l'année 2025, Spes non confundit. Alors, ce temps de grâce qu'est ce jubilé ordinaire ne peut que nous offrir un carême particulier qui utilise les caractéristiques du jubilé pour s'inscrire dans le particulier. Alors, le jubilé, nous le savons déjà, a comme objectif pour les chrétiens de consolider leur foi, de se repentir de leurs péchés et de favoriser les œuvres de solidarité et de pèlerinage. Et cette année, la thématique jubilaire proclamée par le pape François met l'accent sur l'espérance comme moteur de la foi. Le pape souhaite que cet événement soit un moment d'introspection spirituelle et un temps pour des actes de charité envers l'épidémie. On y voit des gens en filigrane, hein. Moi je le sens pertinemment, le schéma du carême qui s'accroît ici avec l'opportunité pour les chrétiens d'obtenir l'indulgence plénière. Voici un temps de grâce, le point total des péchés. Le Vatican a annoncé les étapes pour obtenir cette miséricorde, nous les connaissons, traverser une porte sainte, se confesser, participer à l'Eucharistie, prier pour les intentions du pape, s'engager spirituellement à travers des actes de charité et des pèlerinages. Voici ainsi défini tout ce qui conduira ce carême 2025 à être particulier, puisque s'inscrivant dans une dynamique jubilaire, un temps de grâce à vivre avec ferveur et conviction, orienté évidemment vers l'espérance.
Alors, ce jubilé apporte en plus à ce temps de carême 2025, n'est-ce pas?
Je pense que ce temps jubilé vient donner au temps de carême de vivre ce qu'il est concrètement, le retour à Dieu. Donc le jubilé et le carême vont de pair, si vous voulez.
Alors père, vous venez de le souligner, jubilé et carême vont de pair. Quel est donc le lien entre la conversion et l'espérance?
Je pense que là, la question, elle est bien orchestrée. Vous savez, la conversion et l'espérance sont deux notions très importantes dans la spiritualité chrétienne. Ça, nous le savons déjà. Et le lien entre conversion et espérance se trouve dans la manière dont l'espérance soutient la vie chrétienne et nourrit le chemin vers la sainteté à travers une conversion permanente. L'espérance chrétienne repose sur la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Et ça, nous le savons. Je voudrais à cette question m'appesantir sur le thème conversion un peu. Vous savez, le thème conversion provient du mot latin convertere, qui veut dire tourner ou changer. Ça ouvrit son cœur et son intelligence à Dieu et avec sa grâce réaliser de véritables changements dans notre existence en se détournant du péché et en étant de plus en plus fidèle à l'évangile. Et le lien ici entre conversion et espérance est fort. Parce que l'espérance fournit la force nécessaire pour persévérer dans la conversion. Elle est une source d'énergie et de force intérieure qui va pousser l'homme à s'élever au-delà de ses limites humaines et à tendre vers une communion parfaite avec Dieu. Alors, associée à la conversion, évidemment, l'espérance devient une boussole spirituelle qui oriente l'homme vers son accomplissement ultime, la vision de Dieu et l'union éternelle avec lui. Elle n'est pas seulement un optimisme ou une attitude positive, non, loin de là, mais une confiance ferme dans la promesse divine de la vie éternelle. Alors pour un chrétien, l'espérance dépasse les circonstances présentes. Elle ne se limite pas à attendre un futur meilleur sur la terre, mais s'étend à la vie éternelle.
L'espérance nécessite donc une conversion du cœur.
Ben justement, l'espérance nécessite absolument une conversion parce que l'espérance, c'est ce fort désir de la vie en Dieu. Et cette vie en Dieu, elle passe évidemment par la pratique quotidienne de la charité. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle les vertus théologales. Hein? Et dans ces vertus théologales, ce qui est mis en évidence, c'est évidemment la charité qui est liée fortement à l'espérance. Et donc, se convertir à l'espérance implique avant tout accepter de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ, résurrection et vie, qui dynamise nos vies, à croire. Au-delà des apparences humaines, la vie éternelle s'offre à nous comme récompense de foi.
Le père Hippolyte Anigori, prêtre ivoirien de l'archidiocèse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à bientôt.